Nous allons commencer l'office de la sanctification de ce dimanche des rameaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un petit mot d'explication. Nous avons aujourd'hui deux cérémonies. La cérémonie des rameaux et la cérémonie de la messe. Durant la cérémonie des rameaux, il y a le triomphe de notre Seigneur, et durant la cérémonie de la messe, le chant de la Passion. Il ne faudrait pas croire que l'Église nous fasse passer du triomphe avec ensuite un changement complet de décor, et après cela, après la joie, on serait dans la tristesse. C'est au contraire, l'Église nous fait entrer dans cette semaine à la suite du roi de gloire. Notre Seigneur, durant cette semaine sainte, va conquérir les plus hauts titres de sa gloire, de sa royauté. Regnavit aliigno Deus, Dieu a régné par le bois de la croix. C'est ce que nous chantons dans l'hymne Vexilla Regis. Les bons juifs ont reconnu en notre Seigneur le roi de gloire, le roi qui vient les sauver, celui qui est l'envoyé de Dieu, le Messie. Bien sûr, les princes des prêtres, eux, refusent, mais les bons juifs ont bien compris qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Et il l'acclame. Certes, dans quelques jours, ils vont réclamer sa mise à mort, mais beaucoup, beaucoup plus par faiblesse qu'autre chose. Les princes des prêtres, eux, ce sera par malice. Et il faut que nous ayons bien présent à l'esprit, le saint Thomas d'Aquin nous dit que la messe signifie trois choses. Elle signifie le passé, le présent et l'avenir. Elle signifie le passé parce qu'elle reproduit le sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Sacrifice rédempteur qui nous a sauvés du péché. Elle signifie le présent parce qu'elle nous unit à notre Seigneur. Et elle signifie l'avenir parce qu'elle nous fait déjà entrer, elle nous donne le gage, elle nous fait déjà entrer dans la gloire du ciel, dans laquelle notre Seigneur se trouve aujourd'hui. Et ces trois aspects de la messe sont inséparables. Les protestants ont voulu écarter le sacrifice. Et pour eux, la messe n'est qu'une mémoire de la passion de notre Seigneur, une simple mémoire, c'est-à-dire qu'elle ne reproduit pas, il n'y a pas le sacrifice, et en tout cas pas le sacrifice rédempteur, parce qu'ils ne veulent pas parler du péché. Ça, c'est la première erreur sur le premier sens de la messe. Deuxième sens de la messe, nous nous unissons à notre Seigneur, et nous chantons sa gloire, faisons bien attention de ne pas dire bravo Seigneur, bravo moi, au lieu de dire bravo Seigneur, vive moi qui suis avec Dieu, au lieu de dire vive Dieu qui m'a sauvé. Il peut y avoir dans l'usage des sacrements une façon très égoïste, très intéressée, qui est malheureusement assez fréquente. Et troisièmement, on pourrait oublier que la messe nous fait déjà entrer dans la gloire du ciel en ne considérant que les souffrances, que le péché, que la peine, alors qu'on voit bien durant tout ce carême que la joie progressivement domine de plus en plus à l'approche de la Semaine Sainte. Nous sommes tout heureux de célébrer ce grand événement de la mort de notre Seigneur, qui est certes la plus grande douleur qui soit, et qui est en même temps le plus grand triomphe qui soit pour Dieu. Donc nous commençons, je vous recommande de prendre votre missel, de manière à pouvoir suivre, et je vous indiquerai aussi clairement que possible les choses. Nous commençons par le chant pour la bénédiction des rameaux. Les Hébreux acclament notre Seigneur et c'est ce qui commence la bénédiction des rameaux.
Page 48. 47. Hosanna,
Filio David, benedictus in veritate in nomine Domini. Rex is
de ce jour. Daigné Seigneur, bénis ces branches de palmiers, pour nous, nous avons béni du buis, et faites que les gestes corporels par lesquels votre peuple vous honore en ce jour s'achèvent dans l'âme en profond attachement. Par le triomphe sur le démon et l'amour sans défaillance de votre œuvre miséricordieuse. Et on va voir que ce sur quoi l'Église insiste aujourd'hui, c'est notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Pie XII a simplifié la cérémonie des rameaux, et il l'a fait pour une plus grande facilité pastorale. Avant lui, la bénédiction des rameaux avait comme une allure de messe. On chantait comme épître la promesse de la manne par Dieu aux Hébreux dans le désert, c'est-à-dire une annonce de la communion. Pourquoi une annonce de la communion? Parce qu'il s'agit justement de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ, mort et triomphant pour nous. Après cela, le chant de l'évangile du jour, c'est-à-dire des rameaux, et puis cela continuait avec une ressemblance de messe, et au lieu de la consécration, il y avait la procession des rameaux. C'est-à-dire que l'Église, d'une façon très claire, nous faisait comprendre que la messe célèbre pas seulement la mort, mais également le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus approchait de Jérusalem, arrivé en vue de Bethphagé, près du mont des Oliviers. Il confia cette mission à deux de ses disciples. « Allez au bourg qui est en face de vous, vous y trouverez dès l'abord une ânesse attachée et son ânon près d'elle. » Déliez-les, amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, mais qu'il les renverra sans retard. Ainsi s'accomplissait la parole du prophète Zacharie. Dites à la fille de Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, modeste. Sa monture est une ânesse, un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent alors pour mettre à exécution les ordres de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, les couvrirent de leurs manteaux et firent monter Jésus. Une foule immense étendit ses vêtements sur le chemin. Plusieurs coupaient des branches aux arbres pour en joncher le parcours. Et toute cette foule, devant et derrière lui, criait « Hosanna au fils de David, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce que nous allons chanter nous aussi. La procession chante le Gloria Laus, gloire et louange et honneur au roi, le Christ roi. Elle arrive à la porte de l'église et celle-ci est fermée. Vous avez le porte-croix au tout début de la procession. C'est important parce qu'une procession, ça nous rappelle ce que nous faisons sur terre. Nous suivons Jésus-Christ qui est déjà entré au ciel, nous sommes encore sur la terre, mais nous le suivons. La porte est fermée parce que tant que notre Seigneur n'est pas mort sur la croix et n'est pas ressuscité, monté au ciel, la porte est fermée. À la fin de l'hymne, et qui est alterné entre le cœur derrière et le cœur de dehors, je veux dire, et le cœur des anges à l'intérieur, on frappe la porte avec la hampe de la croix, et alors, sous le poids de la croix, la porte s'ouvre, et on entre dans le ciel. L'Église, c'est dans le ciel. L'Église est illuminée.
Gloria laus et donativissimi, ex Christi Redemptor, cui puerile decus, promsit hosanna primum.
Gloria laus et donativissimi, ex Christi Redemptor, cui puerile decus, promsit hosanna primum.
Israel est tuum ex, Davidis et inquita pollens. Domine qui in domini, rex benedicte venis.
Gloria laus et donativissimi, rex Christi Redemptor, cui revere
Cetus in excelsis, te laudat celicus sanctus, et natalis homo, et cuncta creata si.
Gloria laus et donativissimi, rex Christi Redemptor, cui puerile decus, promsit hosanna primum.
Plebse beati cum palmis obvia venit, cum prece voto imis, ad sumus exceptivis.
Gloria laus et donativissimi, rex Christi Redemptor, cui puerile decus, promsit hosanna primum.
Et tibi passum, salve patria laudis, nos tibi regnanti, pangimus et gemellos.
Gloria laus et donativissimi, res crisere d'antum, cui pover in decus, promansit osana Deum.
E placuere tibi, placea devotio nostra, ex bone ex clemens, cui bona cuncta place.
Gloria las et omnipotimis, rex Christe redemptor, cui puer in me decus, omnia tuus anna Deum.
Nous sommes entrés dans l'église illuminée. Et nous avons une oraison. Elles sont très importantes, les oraisons, parce qu'elles nous expriment ce que l'Église veut que nous demandions à Dieu. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus. Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Rédempteur, en l'honneur de qui, ses rameaux à la main, nous avons chanté de solennelles louanges, accordez-nous dans votre bonté que la grâce de votre bénédiction descende sur tous les lieux où ces rameaux seront portés, et qu'après avoir repoussé le mal ou l'illusion suggérée par le démon, votre droite protège ceux que vous avez rachetés, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons porter les rameaux durant le chant de la Passion. Et donc il y a bien un lien très intime entre la première partie de la cérémonie et la deuxième partie. Voici les lectures de la messe. Je vous donnerai surtout l'épître, et puis nous allons lire, bien entendu, le texte de la Passion lui-même. L'Épître, Saint Paul aux Philippiens. Mes frères, ayez au cœur les sentiments du Christ Jésus. Lui qui était de condition divine, il n'a pas cru devoir se réclamer de son égalité avec Dieu. Mais il s'est anéanti jusqu'à prendre la condition d'esclave, à devenir semblable aux hommes et à avoir l'extérieur d'un homme. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent aux cieux, sur terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Saint Paul nous dit d'avoir les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus important. Vous voyez, dans toute notre vie, notre Seigneur nous facilite les choses, notamment en nous donnant la liturgie, les sacrements, le principal d'entre eux qui est le sacrement de l'Eucharistie. Mais tout cela a toujours un but qui est d'avoir les sentiments de Jésus-Christ. On peut très bien avoir les sentiments sans recevoir les sacrements. On ne peut pas recevoir les sacrements sans avoir les sentiments. Faisons bien attention à ne pas matérialiser les choses. Cela s'appelle en bon français du pharisaïsme. Et le pharisaïsme peut très bien exister même chez les chrétiens. C'est-à-dire un attachement au rite sans avoir les sentiments. Et je vous expliquerai dans le sermon comment Dieu nous met à l'épreuve pour développer en nous les sentiments du Christ Jésus. Nous avons maintenant le texte de l'Évangile.
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. À Gethsémani. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un enclos appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples :
Attendez-moi ici, je vais un peu plus loin pour prier.
Il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. La tristesse et l'abattement l'envahirent à ce moment. Il leur confia :
Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi.
À quelques pas de là, il se laissa tomber la face contre terre et pria en ces termes :
Mon Père, si c'est possible, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que la vôtre s'accomplisse.
De retour vers ses disciples, et les trouvant endormis, il dit à Pierre :
Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible.
Il s'éloigna de nouveau, et pour la seconde fois, dit dans sa prière :
Mon Père, si je ne puis éviter de boire cette coupe, que votre volonté soit faite.
En revenant vers ses disciples, il les trouva encore endormis. Ils avaient un poids sur les yeux. Il les quitta, s'éloigna encore, et pour la troisième fois reprit les mêmes termes de sa prière. Puis il vint retrouver ses disciples et leur dit :
Vous voulez encore dormir et vous reposer ? Et voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des méchants. Allons, debout, le traître n'est pas loin.
L'arrestation. Il parlait encore que Judas, l'un des 12, survint, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Le traître avait convenu avec eux de ce signe :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Rendez-vous en maître.
Effectivement, il s'approcha de Jésus et lui dit :
Salut, Rabbi.
Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit :
Mon ami, pour quelle besogne viens-tu ici ?
Mais déjà la troupe s'avançait et on mit la main sur Jésus pour l'arrêter. On vit alors un des compagnons de Jésus tirer son glaive et, frappant le serviteur du grand prêtre, lui trancher l'oreille. Jésus lui dit :
Remets ton glaive en place. Tous ceux qui se servent du glaive périront par le glaive. Tu ne songes donc pas qu'une simple prière de ma part obtiendrait aussitôt de mon Père plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?
Puis, se tournant vers la bande, il leur dit :
Vous vous êtes mis à ma recherche munis de glaives et de bâtons, comme pour arrêter un malfaiteur. Tous les jours, cependant, je donnais mon enseignement assis dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi.
Si tout cela s'est fait, c'est pour l'accomplissement de ce qu'ont écrit les prophètes. À ce moment, les disciples le lâchèrent tous et s'enfuirent. Chez Caïphe. Après s'être emparé de Jésus, on l'emmena au palais du grand prêtre Caïphe, où s'étaient rassemblés les scribes et les anciens. Pierre le suivit de loin, jusque dans le palais du grand prêtre, où il entra et s'assit parmi les valets pour voir le dénouement. Cependant, les grands prêtres et le Sanhédrin au complet s'appliquaient à trouver contre Jésus, pour le livrer à la mort, une charge sérieuse. Plusieurs témoins furent entendus, mais on fut forcé de les écarter, tant leurs propos étaient discordants. Enfin, deux déposèrent ainsi.
Nous l'avons entendu déclarer. Je puis détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir.
Le grand prêtre se leva et l'apostropha.
Si tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi.
Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre s'écria alors.
Je t'adjure, au nom du Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu.
Jésus lui répondit.
Tu l'as dit, et je vous déclare de plus. Vous me verrez, moi, le Fils de l'homme, siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel.
Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en s'écriant.
Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Le blasphème a retenti à vos oreilles. Que vous en semble?
Et tous de s'écrier.
Il mérite la mort.
Alors ils lui crachèrent au visage et le souffletèrent. Certains lui couvrirent les yeux et lui dirent en le giflant.
Allons, Messie, fais le prophète. Dis-nous qui t'a frappé.
Reniement de Saint-Pierre. Durant ce temps, Pierre était assis dans la cour. Une servante l'aborda et lui dit
« Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. »
Mais il le nia publiquement en ces termes.
« Je ne comprends pas ce que tu veux dire. »
Mais, comme il se dirigeait vers le portail, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là
« Celui-ci était bien avec Jésus de Nazareth. »
De nouveau, il nia avec serment.
« Je ne connais pas cet homme. »
Mais bientôt, plusieurs s'approchèrent et lui dirent.
« Tu es certainement l'un d'entre eux, car ton accent te trahit. »
Alors, il se mit à proférer des imprécations, jurant que cet homme lui était inconnu. À ce moment, on entendit le coq,
chanter.
Le chant du coq, et Pierre se rappela la parole de Jésus. Avant le chant du coq, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Suicide de Judas. Au lever du jour, les grands prêtres et les anciens du peuple au complet tinrent une séance pour pouvoir prononcer contre Jésus la peine de mort. Puis ils le ligotèrent et l'emmenèrent pour le remettre entre les mains du gouverneur Pilate. Alors Judas, le traître, voyant que Jésus était condamné, fut saisi de remords. Il rapporta aux grands prêtres et aux anciens les 30 pièces d'argent en disant
« J'ai péché en livrant un sang innocent. »
Mais ils répondirent
« Que nous importe ? Cela te regarde. »
Là-dessus, il jeta l'argent dans le temple, sortit et alla se pendre. En ramassant les pièces, les grands prêtres déclarèrent.
Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang.
Après délibération, ils achetèrent le champ du potier. pour en faire le cimetière des étrangers. De là le nom d'Aceldama, c'est-à-dire champ du sang, donné encore aujourd'hui à cet endroit. Mais ici encore se réalisait la prédiction d'un prophète Jérémie. Ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qui a été évalué, oui, évalué par les enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur m'a prescrit de leur apporter. Devant Pilate. Quant à Jésus, il comparit devant le gouverneur, qui l'interrogea en ces termes.
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus lui répondit.
« Tu le dis. »
Mais aux accusations des grands prêtres et des anciens, il refusa de répondre. Pilate lui dit alors.
« N'entends-tu pas tout ce dont il t'accuse ?»
Au grand étonnement du gouverneur, il ne répondit pas un mot. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate demanda donc au peuple assemblé :
Voyons, je dois vous délivrer un prisonnier. Choisissez donc entre Barabbas et Jésus, le Messie.
Il savait fort bien que c'était par haine qu'on l'avait amené à son tribunal. Au cours du jugement, sa femme lui envoya dire :
N'aie pas d'histoire avec ce juste. J'ai été aujourd'hui fort tourmenté par un songe à cause de lui.
Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadaient au peuple de demander la grâce de Barabbas et la mort de Jésus. Si bien qu'au moment où le gouverneur posa de nouveau la question,
« Lequel des deux dois-je vous délivrer ?»
Tous répondirent,
« Barabbas !»
Pilate reprit alors,
« Que ferais-je donc de Jésus, le Messie ?»
Et tous de crier,
« Crucifiez-le !»
Et le gouverneur,
« Mais quel mal a-t-il donc fait ?»
La foule cria encore plus fort,
« Crucifiez-le !»
Pilate, voyant le tumulte augmenter, comprit l'inutilité de ses efforts. Il se fit apporter de l'eau et se lavant les mains publiquement, déclara,
Je ne suis pas responsable du sang qui va couler. Prenez-en la responsabilité.
Les cris du peuple lui répondirent
Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Alors il libéra Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, le remit à ses soldats pour le crucifiement. Le couronnement d'épines. Ceux-ci l'emmenèrent dans le prétoire et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête, avec un roseau dans la main droite. Ployant le genou devant lui, il lui disait par manière de dérision
« Salut, roi des Juifs !»
Il lui crachait au visage et lui enlevant le roseau des mains, l'en frappait sur la tête. Enfin, après s'être amusé de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Au calvaire. Dès la sortie, ils réquisitionnèrent un passant, Simon de Cyrène, pour porter la croix de Jésus. Puis on arriva au lieu dit, le crâne, en hébreu, Golgotha. Ils lui présentèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il y trempa ses lèvres mais ne voulut pas boire. Le crucifiement terminé, ils jetèrent les sorts pour le partage des vêtements. Et cela réalisait un passage du psaume 21. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ensuite, ils s'assirent pour commencer la garde. Au-dessus de sa tête, on avait placé un écriteau portant le motif de son supplice. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et deux voleurs furent crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'accablaient d'injures et lui disaient en hochant la tête.
Hey, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix.
Les grands prêtres, les scribes et les anciens le raillaient aussi.
Il sauvait les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu et s'est déclaré son fils. Que Dieu le délivre à présent s'il l'aime.
Même les brigands, crucifiés avec lui, l'outrageaient semblablement. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte :
Eli, Eli, lema sabachthani.
Ce qui veut dire :
mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?
En entendant ce début du psaume 21, certains spectateurs dirent :
il appelle Élie.
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il emplit de vinaigre et l'approcha de ses lèvres au bout d'un roseau. Les autres dirent :
nous allons bien voir si Élie viendra le délivrer.
De nouveau, Jésus poussa un grand cri et rendit l'âme.
Nous nous mettons à genoux quelques instants.
Après la mort. Au même instant, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Des tombeaux s'ouvrirent et beaucoup de saints qui y reposaient ressuscitèrent. Sortant de leur tombe après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Cependant, à la vue du tremblement de terre et des prodiges accomplis, l'officier romain et les soldats de garde s'exclamèrent sous l'effet de l'épouvante.
Il était vraiment le Fils de Dieu.
Il y avait là un groupe important de femmes qui, de loin, regardaient ce qui se passait. Elles étaient venues de Galilée pour accompagner Jésus et le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. La sépulture. Le soir venu, un riche habitant d'Arimathie, nommé Joseph, et lui aussi disciple de Jésus, alla demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate ordonna de le lui remettre. Ayant donc reçu le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul bien propre et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula la grosse pierre à l'entrée du monument et se retira.